9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Elon Musk a vendu cette semaine pour 5 milliards de dollars d'actions Tesla. Il lui en reste pour 200 milliards. Et si je vous disais qu'Elon Musk, tout comme Jeff Bezos d'ailleurs, serait beaucoup moins riche sans les banques centrales? Ce sont elles, en injectant massivement de la monnaie sur les marchés financiers, qui gonflent artificiellement la capitalisation boursière d'entreprises comme Tesla ou Amazon. L'économiste Laurent Bérébi explique ça très bien dans son nouveau livre « Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimonial ». Il est mon premier invité ce matin. Et puis Thomas Pesquet est revenu sur Terre mardi matin, tout s'est bien passé, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme va nous le raconter Stéphane Coquelin, l'auteur d'Histoire secrète de la conquête spatiale. Et l'on terminera l'émission avec Élodie Milzarek qui publie Anti-Bullshit. Mais c'est quoi le bullshit et pourquoi en parle-t-on autant?
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé demain.
Elon Musk vendant pour 5 milliards de dollars d'actions de Tesla, notamment pour payer ses impôts. Bon, il lui en reste à peu près pour 200 milliards. Hein. Il possédait dans tout 17% des actions de Tesla. Laurent Bérébi, c'est une illustration parfaite de votre livre. La valorisation boursière de Tesla, qui a été multipliée par 14 depuis le début de la pandémie de Covid, dépassant les 1000 milliards de dollars, ça n'a aucun rapport avec sa valeur réelle. Ça n'a aucun sens d'un point de vue industriel.
Ça n'a aucun sens puisque on peut tout à fait comparer la valorisation de Tesla par rapport aux 9 prochains constructeurs capitalisés, les plus grosses capitalisations des constructeurs automobiles. Et en fait, la valorisation de Tesla, elle est même supérieure aux 9 autres.
Et c'est pareil pour Google, pour Apple, pour Microsoft ou Amazon, qui toutes se sont considérablement enrichies depuis le Covid.
Absolument. Elles sont toutes considérablement enrichies. On a une valorisation qui a été démultipliée. Et la démultiplication, il n'y a pas de secret, elle vient notamment de la politique monétaire de la Réserve fédérale.
Voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre. Et en même temps, quand on lit votre livre, ça devient lumineux. Les responsables de la richesse d'Elon Musk, mais aussi de Jeff Bezos, ce sont les banques centrales, dont la Fed aux États-Unis, qui alimentent le système en nouvelle monnaie de manière infinie.
Oui.
Et c'est ce qui caractérise, d'après vous, la politique économique depuis pas mal d'années maintenant.
Exactement. En fait, c'est depuis la précédente crise, on a eu l'émergence de ce qu'on a appelé la politique monétaire quantitative. Alors c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on a des banques centrales qui alimentent les marchés financiers en nouvelle monnaie. Elles achètent des actifs et en achetant des actifs, évidemment, ça supporte le cours des actifs financiers. Et c'est ce à quoi on assiste maintenant aujourd'hui, puisque la Fed est toujours sur un rythme de 120 milliards de dollars par mois d'achat d'actifs. Voilà, donc
120 milliards de dollars par
voilà,
mois.
Voilà, exactement.
Sur les marchés financiers.
Sur les marchés financiers.
Au XXe siècle, les banques centrales faisaient exactement le contraire. Elles combattaient l'excès de monnaie parce que l'excès de monnaie était considéré comme créatrice d'inflation.
Exact.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En
fait, pourquoi
on
fait exactement le contraire de ce que l'on faisait avant?
En fait, je ne sais même pas si les banques centrales le savent elles-mêmes. Donc c'est ça le sujet aussi. C'est-à-dire que les banques centrales sont là pour assurer la stabilité monétaire.
Donc en fait, elles ont peur des crises, elles ont peur de la dépression, elles injectent de la monnaie.
Alors, c'est leur credo aujourd'hui. C'est que finalement, elles se disent que si les marchés financiers baissent de manière importante, eh bien, il y aura un crack et ce crack déclencherait une dépression. Et cette dépression serait évidemment néfaste pour l'économie. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles évitent absolument ce crack-là. Et en évitant ce crack, elles achètent des actifs justement par le biais de cette politique monétaire quantitative. Et en achetant des actifs, finalement, elles établissent un filet de sécurité aux actifs financiers. Et donc, finalement, les investisseurs ne prennent pas grand risque aujourd'hui à acheter des actifs financiers, même si les valeurs ne correspondent absolument pas à leurs valeurs fondamentales.
Mais alors, cette injection massive de monnaie qui ne va pas dans l'économie productive, hein, mais sur les marchés financiers, ça provoque à la fois les valorisations extrêmes en bourse, celles que l'on vient de décrire, mais aussi les bulles. La bulle boursière, la bulle technologique, la bulle immobilière,
oui,
la bulle de l'art contemporain, tout ça, ça vient de là.
Exactement. En fait, on assiste à une démultiplication des bulles qui sont en particulier alimentées par cette politique monétaire quantitative. Puisque cette politique monétaire quantitative, elle n'est pas directement injectée, comme vous le dites, dans la sphère productive. en fait, ce sont les crédits qui injectent de la nouvelle monnaie dans la sphère productive. Non, cette politique monétaire quantitative, elle est directement injectée sur les actifs patrimoniaux. Et donc, ceux qui en bénéficient aujourd'hui, ce sont ceux qui ont déjà ces actifs patrimoniaux, et donc notamment les hauts patrimoines. Si bien que cette politique monétaire quantitative a comme travers, de manière importante, le fait d'alimenter finalement la fracture que l'on observe au sein d'une communauté, au sein d'une nation, au sein de l'économie internationale.
Vous voulez dire qu'elle creuse les inégalités, quoi.
Absolument.
Alors, on l'a dit, ça favorise les bulles, ça favorise aussi l'explosion de la dette publique.
Globalement, la Banque centrale achète aussi de la dette publique. Donc, on peut creuser de manière absolument illimitée, apparemment, le déficit public, la dette publique, de façon à soutenir, finalement, l'économie.
On se dit normalement, plus on met d'argent sur la table, plus ça nous enrichit.
Oui.
C'est ce qu'on aimerait croire.
Oui.
Tout cette planche à billets, ça devrait tous
exact.
Nous rendre plus riches.
Oui.
Et ça n'est pas le cas.
Et ça n'est pas le cas parce que finalement, cette politique monétaire favorise d'abord les hauts patrimoines. Lorsqu'on prend par exemple la répartition de du patrimoine, notamment aux États-Unis, puisque là on parle des États-Unis, en fait, le dernier centile, c'est-à-dire les 1% les plus hauts patrimoines, les 1% les plus élevés, ce sont eux dont on a vu que la part du patrimoine global de la nation américaine, finalement, a augmenté. C'est-à-dire, en fait, ils ont une part de plus en plus importante du patrimoine américain, alors que pour tous les autres détenteurs de patrimoine, on a observé une baisse de cette part-là.
Vous allez nous expliquer pourquoi, Laurent Bérébi, mais juste après une pause.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec l'économiste Laurent Bérébi qui publie « Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale » chez Odile Jacob. Un livre qui nous explique ce que vous appelez le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance. Alors, bonne illustration de ce paradoxe, vous l'avez dit, on injecte de l'argent massivement, de manière infinie, sur le marché, mais sur les marchés financiers. Et en fait, on s'aperçoit que ça creuse les inégalités, car au fond, ça bénéficie aussi à ceux qui ont du patrimoine et surtout à ceux qui en ont beaucoup. Par
oui.
exemple, la bulle immobilière, on le voit très bien. Le prix des appartements, des beaux appartements parisiens, alors là, il paraît que ça accuse une toute petite baisse. Mais enfin, depuis un certain nombre de décennies maintenant, ça ne cesse de monter, mm-hmm. au point que ceux qui doivent se contenter des revenus de leur travail, même quand ils gagnent très très bien leur vie, ne peuvent plus se rendre propriétaires.
Exactement. Et en fait, on voit que cette politique monétaire, au lieu de favoriser la stabilité au sein de la communauté, favorise plutôt l'instabilité. Alors, c'est l'instabilité sociale et politique, évidemment, parce que finalement, elle a comme travers cette mise à l'écart de l'accession à la propriété de la classe moyenne, puisque les prix immobiliers flambent, et en flambant, finalement, les salaires ne suivent absolument pas, et on a donc une accession à la propriété qui devient de plus en plus difficile, voire quasiment impossible pour une part de plus en plus importante de la classe moyenne.
En gros, pour acheter un appartement à Paris, mais c'est à peu près pareil à Manhattan, il faut déjà être propriétaire d'un appartement.
Oui, quasiment aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement le cas de Manhattan, c'est aussi le cas des États-Unis. Ça se diffuse
de toutes les grandes villes.
De toutes les grandes villes. Il faut voir qu'aux États-Unis, par exemple, les prix immobiliers sont sur un rythme de 20% de hausse par an, alors que pour l'instant, les salaires sont sur un rythme de hausse de 3,5%. Donc, on est véritablement dans une bulle. Et c'est typiquement la bulle que l'on a connue, d'ailleurs, juste avant la crise précédente, c'est-à-dire qu'on était justement
sur crise des subprimes.
La crise subprime. On était sur cette physionomie-là. On avait une flambée des prix immobiliers, alors que les salaires ne suivent absolument pas. Et donc, finalement, ce marché n'est plus solvable. En fait, il ne s'échange qu'entre ceux qui ont un haut patrimoine, finalement. Et ce sont eux qui font la hausse des prix.
Le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance, c'est aussi le fait qu'en dépit de ces injections massives d'argent, on a une croissance faible.
Absolument. En fait, on a une croissance, on le voit, on l'a vu. Alors, je ne parle même pas de la pandémie et des conséquences de la pandémie. Mais même avant la pandémie, finalement, la croissance a été relativement faible dans tous les pays développés. Je prends le cas de la France. En fait, en 10 ans, le PIB par tête, c'est-à-dire la richesse nette productive qu'on dégage par habitant, a augmenté sur 10 ans de 5%. Alors que dans les décennies 70 et 80, on était sur des rythmes de 20 à 30% sur 10 ans. Donc, vous voyez le décalage absolument faramineux. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la dette publique française était à 60% du PIB avant la crise des subprimes. Aujourd'hui, on est à 120%. Donc, on voit bien cette dérive à laquelle on assiste aujourd'hui, une dérive du libéralisme, C'est-à-dire que finalement, on injecte de plus en plus de monnaie, on creuse de plus en plus les déficits publics et la dette publique, mais pour autant, eh bien, on a une croissance qui s'affaiblit.
Vous parlez aussi d'une atrophie des banques commerciales. Ces banques qui, normalement, par le biais du crédit, sont censées prêter de l'argent aux entreprises et donc enrichir la richesse productive du pays.
Absolument.
Ça n'est plus le cas.
Ça n'est plus le cas parce qu'on pratique une politique de taux d'intérêt, ici en zone euro par exemple, négative. Les taux directeurs sont négatifs. Et donc comme les taux directeurs sont négatifs, on a des taux d'intérêt du crédit qui sont très peu positifs. Or, la banque, le métier de la banque, c'est faire du crédit. Et la banque ne peut se rémunérer qu'à partir de ce qu'on appelle la marge d'intermédiation, c'est-à-dire la différence entre le coût de gestion des dépôts, on va dire, et le taux d'intérêt des crédits. Si le taux d'un crédit est très faible alors que le coût de gestion des dépôts ne change quasiment pas ou très peu, eh bien, vous avez des revenus de la banque qui fondent à la vitesse grand V, et finalement, la banque ne peut plus faire son métier de crédit, de prêteur.
Laurent Bérébi, quand on lit votre livre, on comprend que ce système, personne ne le gouverne. Il est plus fort que tout, il s'auto-alimente. S'il s'arrête, tout s'écroule, par la même occasion. Alors comment en sortir ?
Aujourd'hui, on voit bien que la banque centrale ou les banques centrales ne peuvent plus maîtriser ou contrôler, on va dire, l'instabilité au sein du libéralisme. Et si ce ne sont plus les banques centrales qui le maîtrisent ou qui le contrôlent, évidemment, c'est l'État. Alors l'État, ça ne consiste pas, en ce qui concerne l'État, à faire des dépenses publiques supplémentaires, parce qu'on est déjà véritablement sur des rythmes, des niveaux de dette qui sont très très élevés. Ça consiste à réguler le système libéral par un outil régulateur qui est fantastique, qui est la fiscalité.
Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale, c'est votre nouveau livre, Laurent Bérébi, vient de paraître chez Odile Jacob, en attendant la théorie générale que vous allez en sortir. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Stéphane Coquelin, on va parler de Thomas Pesquet et de la conquête spatiale.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Thomas Pesquet est donc redescendu de la Station Spatiale Internationale cette semaine. Un nouvel équipage est monté à bord, composé de 3 astronautes américains, dont une femme et un Allemand. Ils ont voyagé dans la capsule Dragon d'Elon Musk, dont on vient justement de parler. Mais comment est-on parvenu à ce balai harmonieux où tout un chacun peut désormais aller se promener dans l'espace, même un septuagénaire comme Richard Branson dans son avion spatial en juillet dernier, ou Jeff Bezos, 57 ans avec sa fusée Blue Origin. Pour en arriver là, il a fallu des pionniers, souvent méconnus, des anti-héros, beaucoup de drames et d'accidents. Stéphane Coquelin, bonjour.
Bonjour.
Dans votre histoire secrète de la conquête spatiale aux éditions du Rocher, vous nous rappelez qu'à l'origine de tout cela, il y a un terroriste, un des assassins du tsar Alexandre II en 1881, Nikolai Kibalchich. C'était l'artificier du groupe. Il avait 27 ans. Il a été condamné à mort et exécuté. Mais pendant son séjour en prison, il a dessiné le premier vaisseau spatial.
Oui, c'était un personnage qui s'occupait aussi des feux d'artifice de sa ville natale. Vous voyez, il était entre le divertissement et puis les explosifs, parce qu'évidemment, il était assez révolutionnaire comme ça. Et donc, avec un crayon, un papier qu'il a demandé à ses geôliers, il a complètement construit, dessiné le premier vaisseau spatial. Et malheureusement, pour lui, il n'aura pas le temps puisque les bourreaux vont venir le chercher et les dessins vont rester comme ça en prison et un gardien va les trouver comme ça et va les donner aux archives. Et alors là, les dessins vont rester quand même pendant au moins 50 ans dans les armoires un petit peu de l'administration russe, puis après soviétique, avant que la révolution de 1917 libère un petit peu le génie de ce précurseur.
Parce que le deuxième, c'est le deuxième de ces personnages fabuleux, hein, sans qui Thomas Pesquet aujourd'hui ne serait pas redescendu aussi facilement sur Terre. C'est Konstantin Tsiolkovsky. Lui, c'est le père de l'astronautique moderne. Il est né en 1857. Ça remonte très très loin. Hein. Et il va améliorer la machine volante de Kibalchich. Le problème auquel il se confronte, c'est le même. Hein, c'est comment s'arracher à l'attraction terrestre.
Oui, alors on voit aussi dans les archives de Konstantin Tsiolkovski des dessins absolument fabuleux. Des dessins qui rappellent parfois l'avion furtif qui sera inventé bien longtemps après. Il vit au fin fond de la forêt, il est barbu, c'est une sorte d'Archimède russe, vous voyez, il a juste un crayon. Il est allé à Moscou comme ça, comme un va-nu-pied, on se moquait de lui, les enfants lui jetaient des pierres, il allait à la bibliothèque, son père lui avait donné un petit peu d'argent pour qu'il s'en...
Son père était garde forestier.
Voilà, son père était garde forestier, il lui a donné un petit peu d'argent pour qu'il puisse survivre, et au lieu d'aller étudier dans des facs célèbres, il préférait aller à la bibliothèque, acheter des ouvrages d'astronomie et tout ça, et tout seul, il a commencé à réfléchir un petit peu à comment, effectivement, élever une fusée de l'attraction terrestre, et finalement, il va... pendant des années, lui aussi, ses travaux vont rester un petit peu enfermés dans un placard avant que la révolution de 1917, lui aussi, libère ses travaux.
Les bolcheviks, en effet, vont, eux, beaucoup s'intéresser à l'espace. Ils ont l'idée tout de suite que c'est là-haut qu'une partie du futur va se passer. Et au fond, l'enseignement va être à la pointe en Union soviétique en matière d'astronautique. Celui qui va en profiter, c'est Sergueï Korolev. C'est le père du programme spatial soviétique. C'est l'homme qui a lancé leur toute première fusée expérimentale en 1933 à 400 mètres d'altitude. Et pour le remercier, Staline va l'envoyer pendant plusieurs années au goulag, au fin fond de la Sibérie.
Staline, lui, il a quand même l'idée d'avoir des bases un petit peu en l'air comme ça dans l'espace pour bombarder les États-Unis. C'est un peu une idée qu'il a comme ça qui sera son obsession. Et donc les ingénieurs qui ne veulent pas de cette idée-là, en général sont soupçonnés dans cette espèce de paranoïa des années 30 où les purges vont un petit peu dévaster toute l'intelligentsia soviétique, et lui-même va se retrouver dans un camp en Sibérie. Alors là, on va lui casser les dents, on va vraiment l'affamer, il va vraiment penser mourir.
Après la mort de Staline, il peut reprendre son travail. C'est lui qui est l'artisan du Spoutnik, le premier engin placé en orbite autour de la Terre en 1957, et du premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en 1961. Mais à l'époque, vous racontez que personne ne connaît son nom, Sergueï Korolev. Les soviétiques le cache. C'est pour ça qu'il n'aura pas le prix Nobel. Et alors, comment ils font? Ils mettent quelqu'un à sa place.
Ben oui, ils mettent un homme de paille, Léonid Sedov, qui lui, on voit d'ailleurs quand Youri Gagarin va à Ivry, en France, fait une tournée en France.
Ah ben c'est, à l'époque, c'est l'homme le plus célèbre du monde. Il fait une tournée mondiale.
Voilà, il est accompagné de Léonid Sedov.
Et on croit que c'est Sedov.
Voilà. Et en fait, le malheureux Korolev, lui, reste dans la grisâtre Union soviétique.
Mais pourquoi? Parce que les soviétiques ont peur qu'on enlève Korolev.
Alors, ils ont peur qu'on enlève Korolev. Et en plus, dire que le grand ingénieur soviétique est un ancien des camps du goulag, c'est pas bon pour l'image.
Même sous Khrouchtchev.
Voilà, même sous Khrouchtchev, c'est pas bon pour l'image un petit peu des dirigeants soviétiques qui pourraient comme ça avouer qu'ils se sont trompés en envoyant un génie dans les camps. Donc évidemment, il y a tout un côté sur l'image, la réputation que on connaît un petit peu le culte du secret des soviétiques.
Thomas Pesquet, qui vient de redescendre donc de la station spatiale internationale, on sait précisément où il atterrit, où il amerrit, même plus particulièrement, avec la capsule Dragon 1. Gagarin, en revanche, on ne savait pas. Et vous racontez qu'il se retrouve au milieu d'un champ quand il redescend. Oui. Il cherche un téléphone pour qu'on vienne le chercher. Il ne sait pas où il est.
Il cherche un téléphone et il rencontre un couple de paysans, comme ça, avec une famille et tout. Et puis il a une combinaison assez fluo-orange, comme un extraterrestre. Et il arrive, il dit, voilà, je descends de l'espace. Je descends, est-ce que vous n'avez pas un téléphone? Et en plus, il paraît que son père, tellement heureux de ce vol réussi, aurait gagné Moscou avec une carriole à cheval. Vous voyez, on est finalement entre le monde un petit peu agricole médiéval russe et puis finalement le futurisme soviétique. Donc c'est assez amusant, c'est ce choc des deux mondes.
On fait une pause, Stéphane Coquelin. Vous nous raconterez aussi le destin tragique de Leïka, la petite chienne dans l'espace.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé demain.
Nous sommes toujours avec Stéphane Coquelin, l'auteur d'Histoire secrète de la conquête spatiale aux éditions du Rocher. La petite chienne Leïka, envoyée avant Gagarin, les soviétiques ont fait croire à l'époque qu'elle avait voyagé pendant 5 jours autour de la Terre avant d'être euthanasiée, parce qu'on ne pouvait pas la ramener vivante à l'époque, on ne savait pas comment faire. Et tout le monde avait versé une larme à l'époque pour cette petite chienne. Mais vous dites que la réalité est très très différente. En fait, elle est morte en 2 heures.
Oui, elle est morte en 2 heures. Et alors, il y a une espèce de mensonge un petit peu. On avait dit qu'elle avait huit jours de nourriture. Et puis, tout le monde savait qu'elle était condamnée. Hein. D'ailleurs, il paraît qu'elle aurait eu de la nourriture empoisonnée, c'est-à-dire pour qu'elle ne souffre pas.
C'est ce qu'ils avaient raconté.
Voilà, c'est ce qu'ils avaient raconté. Et Radio Moscou, pendant le vol, disait, voilà, Frisette, parce qu'il l'appelait comme ça, Frisette, va bien, elle vole, elle regarde par le hublot, enfin, n'importe quoi.
Il faut dire que tous les enfants, à l'époque du monde, pensaient à cette petite chienne dans l'espace.
Voilà, exactement. Et en fait, elle est morte, mais dans d'atroces souffrances, parce qu'il y avait quand même une pression de 40 degrés dans la cabine, les rayons thermiques du soleil l'ont calcinée complètement, donc le vol...
En très peu de temps,
en deux heures, moins de 5 heures, en fait, et elle est morte tout de suite, et en fait, la Spoutnik, la capsule, a volé pendant pas mal d'heures, pendant pas mal de mois, comme ça, avec un cadavre à l'intérieur.
L'équivalent de Sergueï Korolev côté américain, c'est Werner von Braun, le père du programme spatial américain. C'est un ancien AFD. C'est le père des V2, les fusées balistiques que Hitler envoyait sur l'Angleterre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est rendu aux Américains, il y tenait, et c'est lui qui va leur permettre d'aller sur la Lune.
Oui, parce que c'est l'inventeur des V2, les fameux V2 qui sont plus pour faire peur que vraiment efficaces. Mais enfin, il avait quand même, c'était un génie, hein, un génie de la fusée et tout. Et lui aussi, il a un membre du parti nazi, donc lui aussi, il a dû tromper ou dû jouer un petit peu avec la volonté des dirigeants nazis.
Il a failli se faire arrêter par Himmler.
Il s'est même fait arrêter par Himmler. C'est-à-dire qu'Himmler a hésité à l'exécuter. Et c'est Albert Speer, qui l'architecte du Troisième Reich, qui à l'époque dirigeait aussi le programme, qui a réussi, parce qu'il détestait Himmler, à le faire libérer. Mais il a failli être tué, parce qu'évidemment, Himmler le soupçonnait de vouloir construire des fusées pour conquérir la Lune. En fait, il fallait construire des bombes. Et donc, il ne fallait surtout pas dire qu'on voulait construire des fusées.
Et pourtant, c'est ce qu'il va faire pour les Américains. La fusée Saturn V qui permet la conquête de la Lune, c'est lui.
Et oui, c'est lui. Et il faut dire qu'il a mis du temps à ce que les Américains, finalement, aient confiance en lui. Et à un moment donné, il finit une émission pour Walt Disney. Il devient animateur télé pour Walt Disney, parce qu'il y avait une émission très célèbre dans les années 50, où des ingénieurs racontaient un petit peu le fonctionnement des fusées, un peu des Michel Chevalet de l'époque, avec des maquettes et tout ça. Et à l'époque, il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il attend que les Américains lui fassent confiance. Et en fait, Eisenhower ne voulait pas de nazis sur le territoire américain. Donc les Américains ont mis du temps quand même à se décider à engager ces gens-là.
Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace en 1963, c'était une ouvrière sélectionnée par Korolev. Elle n'était pas pilote d'essai comme Gagarine et comme l'étaient les premiers Américains dans l'espace, Alan Shepard ou John Glenn. C'est une pure ouvrière.
C'est une pure ouvrière, mais c'est un petit peu toujours la technique un peu des soviétiques, parce que Gagarine, par exemple, manquait d'instruction. Hein. C'était un pilote de chasse, un grand pilote, mais il n'était pas un bourgeois. Et en fait, Khrouchtchev et Brejnev et tous ces dirigeants soviétiques voulaient des vrais ouvriers, des gens vraiment normaux. Et on sait que Valentina Tereshkova, elle a battu à la sélection des professeurs d'anglais, des intellectuels, des gens beaucoup plus capés intellectuellement. Mais finalement, parce qu'ils étaient capés intellectuellement, ont été éliminés parce qu'ils voulaient un exemple de...
Elle est toujours vivante d'ailleurs.
Elle est toujours vivante.
Elle a 84 ans, voilà, elle est députée à la Douma.
Voilà, et c'est un vrai tombeau un peu, parce que elle ne dit rien, elle sert tous les gouvernements, elle n'en pense peut-être pas moins. Par exemple, elle soutient Poutine en ce moment, elle a soutenu quand même Staline, elle a été vraiment une fidèle soldate de l'Union soviétique, et elle n'a jamais écrit ses mémoires, elle reste très silencieuse, très, très mutique comme ça.
Quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les deux premiers à marcher sur la Lune, que fait le troisième Michael Collins?
Il ne fait rien. Il est dans la nuit, dans le noir, évidemment.
Il est dans le noir complet.
Il est dans le noir complet, dans le silence, puisqu'il n'y a pas de liaison radio. Donc il attend avec une peur que ses deux copains ne puissent pas remonter.
Ils sont descendus avec le LEM.
D'ailleurs, Nixon avait écrit un discours au cas où on ne pourrait pas récupérer Armstrong et Aldrin. Heureusement, il ne prononcera pas ce discours. Mais tout le monde savait qu'il y avait un risque pour qu'il ne puisse pas regagner le vaisseau.
Et Michael, piloté par Michael Collins.
Voilà, et Michael Collins a attendu dans l'angoisse. Mais c'est un homme d'une... D'ailleurs, c'est l'un des... Il s'en tirera peut-être le mieux finalement après.
Mais c'est ce que vous racontez au fond. C'est celui qui est resté le plus équilibré des trois.
Il fallait être équilibré pour rester dans le noir et le silence en attendant que ses deux copains remontent. Hein.
Parce que Neil Armstrong, vous dites, quand il revient, il ne va pas si bien que ça. Il aurait voulu que personne d'autre ne revienne sur la Lune après lui.
Oui, voilà. Alors, complètement, il a pété un peu les plombs, évidemment. Il voulait que c'est pas sacré, c'est pas sanctifié, ne soit pas profané par un autre cosmonaute ou un autre astronaute. Et en plus, il est un peu autiste. Il refusait les interviews, il se cachait dans son ranch aux États-Unis. Donc, il avait cette espèce de côté un petit peu mutique, silencieux aussi. Et Aldrin, lui, c'est autre chose. Parce que
pire, c'est pire, Buzz Aldrin, pire. Hein, puisque lui, il vit très mal son retour sur Terre, il sombre dans l'alcoolisme, il divorce, et il devient vendeur de voitures. Voilà. Alors, ça, c'est pareil, le plus dingue.
C'est dingue. Il faut dire qu'Aldrin était un petit peu alcoolique avant.
Il l'avait caché.
Il avait fait semblant de... Alors, il faut savoir que sa mère s'appelle Moon. Hein, c'est assez drôle. Ça... Donc, en fait, il a caché son alcoolisme et quand il est revenu sur Terre, il a très mal supporté la réadaptation sur Terre et le fait que finalement, le rêve de sa vie ait été consumé. Et donc, du coup, il a ressombré dans l'alcool, il a quitté la NASA et il est devenu vendeur de Cadillac. Et alors, il y a des gens qui le reconnaissent. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Et en fait, bah oui, j'étais sur la Lune. Il ne voulait pas le croire finalement. Et en fait, il s'en foutait de vendre des Cadillacs. Il racontait n'importe quoi sur les Cadillacs et tout. Mais et il commençait à signer des autographes. Vous voyez, c'était la boutique de Cadillac où il exerçait devenait une espèce de barnum de cirque où les gens commençaient à venir pour signer des autographes.
La conquête spatiale, ça n'a pas toujours été de tout repos, comme on a l'impression que ça l'est devenu aujourd'hui. Merci Stéphane Coquelin. Histoire secrète de la conquête spatiale, c'est paru aux éditions du Rocher. On se retrouve dans un instant, on va parler du bullshit.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Tadéhi.
Bonjour Élodie Milzarek.
Bonjour.
Vous publiez Anti-Bullshit aux éditions Erol. C'est un manuel pour résister au bullshit, mais c'est quoi exactement le bullshit ?
Le bullshit, assez simplement, on peut considérer que c'est lorsqu'il y a un décalage entre les signes, les mots, les paroles qui sont entendues, lues ou vues, et puis la réalité qui est vécue.
Au fond, c'est quand on raconte de la merde, mais vraiment de la grosse merde. Bullshit, c'est merde de taureau, en sens littéral.
Exactement.
Hein. Donc la plus grosse possible.
Tout à fait, vous avez raison Frédéric. Et moi, il était important justement pour moi de reprendre ce terme dans son acceptation, à la fois dans cet anglicisme-là, mais dans la traduction d'être volontairement littéral. Parce que c'est vrai qu'en français, finalement, on a tendance à utiliser les termes foutaise, connerie, enfin des choses qui sont finalement assez légères. Et moi, voilà, volontairement, j'ai dit non, le bullshit, c'est bien raconter de la merde et comment finalement, dans les discours publicitaires et politiques qui nous entourent, on retrouve des structures sous-jacentes qui renvoient ce phénomène qui, à mon avis, est aussi un phénomène sociétal.
C'est au fond le récit imaginaire que l'on fait pour s'extraire de la réalité.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je crois que ça va plus loin, puisque j'aime beaucoup, et c'est vrai que je termine l'ouvrage là-dessus, sur la dimension poétique aussi. Et quelque part, l'imaginaire fait partie aussi de cette dimension poétique. D'ailleurs, je cite Edgar Morin qui nous rappelait que vivre de prose, ça n'est que survivre, et vivre sa vie, c'est vivre poétiquement. Donc, il y a quand même une dimension imaginaire, mais imaginale, qui est tout à fait importante. Hein. C'est celle qui est défendue par différents penseurs comme Gilbert Durand ou Henri Corbin, il y a une dimension anthropologique vraiment forte, mais qui est nourrie de sens. Et là où ça ne va plus, c'est quand les discours, justement, sont dans l'imaginaire, mais une fiction qui n'est plus raccordée, qui est complètement déconnectée de cette question du sens et de ce qui peut nous nourrir.
Mais Élodie Milzarek, qu'est-ce qui nous prouve que votre anti-bullshit n'est pas du bullshit ?
Ça, c'est la meilleure question qu'on ne m'a pas encore posée et à laquelle voilà, j'ai hâte de répondre. Je crois que vous avez raison là-dessus. Bon, il y a un moment donné, je fais un petit peu mon examen de conscience. C'est vrai que j'en parle rapidement. Bon, vraisemblablement, c'est un thème qui m'obsède puisque j'avais commencé. Mon premier ouvrage, c'était Déjouer les manipulateurs. J'ai continué par la stratégie du caméléon. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte dans les dynamiques relationnelles? Là, je poursuis avec anti-bullshit. Bon, ça raconte forcément quelque chose de moi. Je laisse au psychanalyste voilà, le soin de décider. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que Et évidemment, je ne suis pas là en train de dire voici ça, certaines vérités et voici la mienne. Justement, l'idée, c'est de montrer que en dépassant une vision relativiste du monde, oui, il y a plusieurs vérités, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on propose d'autre ? L'idée, c'est de comprendre que le sens ne peut pas être vécu, parce qu'il n'est pas que pensé, le sens, il est aussi vécu, il ne peut pas être vécu que de manière analytique. Il y a aussi une dimension émotionnelle, et c'est pour ça qu'à la fin, je termine même avec Julia Kristeva, mais sur cette question de la résonance, la vibration du mot aussi, dans sa force étymologique. Et voilà, je propose
là,
une vidéo...
Quand vous dites la vibration du mot dans son sens étymologique, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se disent bullshit,
oui,
bullshit,
et
bullshit.
Et d'ailleurs, ils ont raison peut-être de le penser. Moi, en tous les cas, je ne suis pas sur cette question de détenir la vérité. Je propose une vision. Et puis, ceux qui ont envie d'aller dans ce parcours-là, dans ce cheminement que je propose, ben, je suis heureuse de les accompagner. Mais voilà, il n'y a pas de prétention de ma part, si vous voulez, à détenir la vérité.
Mais au fond, quelle est la différence entre une pensée complexe, parce que c'est ce que vous essayez de déployer, vous êtes sémiologue, mais on pourrait dire ça d'un philosophe, de Spinoza, de Kant. Quelle est la différence entre une pensée complexe et du bullshit? Parce que n'importe qui peut se dire, tiens, là j'entends des mots que je ne comprends pas, ça a l'air compliqué, il y a plein de subordonnés, c'est du bullshit.
Vous avez raison, surtout que moi quand j'avais beaucoup travaillé, c'était tout un pan de mon travail en tant que linguiste à mes débuts sur la question de la langue de bois, il y a des marqueurs linguistiques spécifiques que l'on retrouve. Vous en avez cité, par exemple, la surabondance des subordonnés, les tournures alambiquées, des mots qui peuvent effectivement être complexes.
Et quand
on regarde le jargon, et quand on regarde des discours qui sont des discours plus explicatifs, scientifiques, philosophiques, parfois on retrouve la même structure. Donc la question se pose, enfumage ou pensée complexe, je crois que la différence, elle est aussi au niveau des intentions. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un désir de manipuler l'autre? Est-ce qu'on souhaite mentir à l'autre? Il faudra revenir sur ce distinguo entre le mensonge et le bullshit, mais il y a aussi toute cette essence, et comme je vous le disais, la question du sens ne peut pas être simplement lue à travers des marqueurs linguistiques, à travers une syntaxe, à travers une sémantique particulière. C'est aussi comment on utilise les mots, dans quelles intentions, comment est-ce que ces mots-là, ils sont choisis de manière pertinente ou non.
Prenons un exemple, le pouvoir d'achat ressenti.
Oui, alors ça c'était, ça c'était magnifique, merci de prendre cet exemple-là, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. On était en octobre 2018. Vous savez, à ce moment-là, j'avais une chronique régulière sur LCI. C'était la montée des gilets jaunes. C'est-à-dire que le mouvement commençait à se mettre en place, mais on le sentait simplement. Il y avait quelque chose dans les rédactions. On se disait, bon, il va se passer quelque chose, mais le mouvement n'était pas encore tout à fait là. Et moi, j'étais étonnée. Effectivement, je voyais émerger cet élément de langage, pouvoir d'achat ressenti. Et j'étais quand même assez surprise de voir la conclusion qui était proposée, à savoir le pouvoir d'achat est bon, c'est le pouvoir d'achat ressenti qui n'est pas bon. En gros, la situation est bonne, mais c'est dans votre tête. Le porte-monnaie, ça va bien, mais dans la tête, ça va pas bien. Et là, j'ai quand même trouvé ça merveilleux. Donc forcément, ça m'a amené à creuser cette question-là. Et puis quand vous creusez, vous dites, tiens, qui c'est l'INSEE qui décide ça, puis après qui est élu, promeut à l'INSEE, bon voilà. Donc,
vous avez un autre exemple, c'est le mot sportif pour qualifier les militaires.
Oui, alors ça m'a beaucoup plu aussi. Bon, ça parle d'une expérience personnelle. Voilà, moi c'est vrai que j'ai grandi 30 ans en caserne, alors ça laisse des traces, mais j'ai toujours
été militaire.
Voilà, exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça fabuleux de voir des individus qui étaient ventripotents et soufflaient très vite à l'effort, mais qui avaient des notations qui paraissaient très bonnes. Donc par exemple, bon sportif. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il y a des discours qui peuvent être codifiés. Alors là, je parle effectivement plutôt dans un cadre militaire, mais c'est des grilles de notation qu'on retrouve aussi, par exemple, à l'éducation nationale. C'est comment on utilise des mots pour faire croire à ceux qui les reçoivent qu'ils sont bons sportifs, mais ceux qui notent, ceux qui sont dans la notification, ceux qui vont faire passer les échelons, en définitive, savent très bien que bon sportif, c'est en fait très mauvais sportif, puisqu'il n'y a pas d'hyperbole, il n'y a pas excellent sportif. Voilà, c'est toutes ces astuces.
La notation commence, en fait, la plus basse, c'est bon sportif.
Exactement, tout à fait. Donc, c'est toutes ces astuces langagières, moi, qui me fascinent, puisque là, il y a un vrai décalage entre ce qui est dit, ce qui est écrit et la réalité.
Mais il y a aussi les mots valises, les mots que tout le monde se met à employer. Par exemple, le mot sidération, que l'on nous sert depuis quelques années à toutes les sauces, pour expliquer qu'on n'a rien dit ou qu'on n'a rien fait et qu'on aurait peut-être dû dire ou faire. Est-ce que ce n'est pas devenu du bullshit ?
souvent, quand il y a un événement désagréable qui arrive, les gens vont faire preuve de cet état psychologique qui renvoie à des marqueurs psychologiques particuliers. La sidération, effectivement, on n'a pas pu agir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce mot-là, justement, quand on s'intéresse à l'étymologie, c'est un mot qu'on retrouve en astronomie et qui parle de l'attraction d'un astre sur un autre. Eh bien ça, vous voyez, typiquement, moi, je ne vais pas porter de jugement moral de dire est-ce que c'est bien ou pas bien d'utiliser ce terme de sidération. Simplement, je note que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, vous avez tout à fait raison, et qu'il est un marqueur de cette postmodernité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, petit à petit, on quitte des repères qui étaient des repères stables, à savoir il y a la vérité, il y a le mensonge, c'est blanc ou c'est noir. Dans la postmodernité dans laquelle on évolue, et là je cite les travaux de Michel Maffesoli, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Et que dans cette postmodernité, il y a plus de place qui est fait aussi à la magie et moins aux critères rationnels. Le terme sidération, je trouve qu'il est intéressant. Pourquoi d'un seul coup on se met à convoquer un mot qui est lié à l'astrologie ? C'est étonnant ce truc. Moi, c'est ça qui m'interpelle.
Mais au fond, l'art de se raconter des histoires, parce que c'est aussi ça le bullshit, c'est vieux comme le monde, c'est même à ça qui marche le monde, aux histoires que l'on se raconte, que ce soit, la monarchie, le christianisme ou le communisme. Mais ce n'est pas du bullshit pour autant. On a l'impression que notre époque digitale, notre époque que vous qualifiez de postmoderne, se prête particulièrement au bullshit, plus que les précédentes. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai que vous l'avez noté dans la structure du livre, il y a plusieurs chapitres et il y a plusieurs visages de ce bullshit. Il y a les mots, il y a le storytelling, et vous me posez cette question en particulier là-dessus. Il y a le digital, il y a aussi justement tout ce qu'on appelle la post-vérité. Et c'est vrai que sans doute que le bullshit existait avant, mais l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a marqué de sa petite entrée le dictionnaire Oxford, qui a justement fait une entrée spécifique sur la post-vérité. Donc c'est quand même un marqueur de notre époque. Sur la question du storytelling, l'homme s'est toujours raconté des histoires et c'est même comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Moi j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage à quelle partie du cerveau en particulier ça faisait appel. C'est plutôt les régions limbiques visiblement qui sont très sensibles à la comparaison sociale, que le nudge s'est utilisé à merveille. Quand on voit des hommes politiques par exemple qui se font vacciner, on sait que c'est aussi pour montrer l'exemple. Donc la dimension exemplaire, elle est très forte. L'homo sapiens y est très sensible. Donc toutes les histoires ne sont pas du bullshit. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment il y a des structures sous-jacentes au storytelling que l'on retrouve et que, par exemple, Joseph Campbell a très bien décrit dans Le héros aux mille visages. Comment l'être humain est sensible à ces structures-là parce que ces structures narratives, elles sont porteuses de sens. Mais comment aussi, parfois, dans les discours politiques et publicitaires, ce sens-là est dévoyé. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple concret, Joseph Campbell, quand il parle de cette structure du monomythe, pour reprendre son terme exact, il part de la mort du héros et puis d'une renaissance symbolique. Mais elle est où cette renaissance symbolique quand on regarde des publicités pour parfum où finalement on se dit « Ah, le héros est prêt à mourir pour une bouteille de parfum », mais ça n'a pas de sens. Voilà le monde dans lequel on vit.
Merci Élodie Milzarek. Anti-bullshit, ça vient de paraître aux éditions Erol.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. Dans quelques instants, ce sera le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Qui est votre invité ?
Bonjour Frédéric, notre invité pour le grand rendez-vous sera Marion Maréchal. Et pour l'interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Boccoté.
Bonne émission.
Europe 1.